Épître de Jude. Commençons par la prière. Seigneur, on prie pour que tu répandes ta grâce sur nous. On veut croire que c'est ta parole, Seigneur, qui nous change et qui nous transforme, qui nous rend semblables à toi toujours davantage, qui nous façonne, Seigneur. C'est par elle que tu as créé le monde, c'est par elle que tu nous bénis d'une manière spéciale. Nous voulons te prier pour ta parole, Seigneur, pour qu'elle ait un impact spécial dans nos vies, pour que tu puisses t'adresser à nous d'une manière qui nous transforme encore. Te prions pour que tu viennes créer en nous un cœur pur, que tu renouvelles en nous un esprit bien disposé, que tu nous amènes à nous consacrer davantage à toi, et aujourd'hui encore que tu nous montres quel est le grand combat que tu nous appelles à mener pour l'Évangile, Seigneur. On te prie pour que ces temps soient encore pour nous une occasion de te voir tel que tu es et de comparer notre condition à la tienne pour voir combien il est bon, combien il est agréable, Seigneur, de savoir qu'un Dieu comme toi s'est abaissé jusqu'à nous pour nous prendre avec toi. Merci pour le pardon des péchés, Seigneur, que tu nous as acquis en Jésus-Christ. Et merci pour ta bienveillance qui se renouvelle jour après jour. Que ton nom soit glorifié. Amen. Jude, versets 3 et 4, il n'y a qu'un seul chapitre dans Jude. Jude, versets 3 et 4. Et on va lire ce texte, je vais utiliser la version de la NBS que j'ai légèrement modifiée, comme à l'accoutumée. Jude, versets 3 et 4. Bien-aimé, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Samedi soir, on avait prévu, je vous le disais, d'aller dîner chez certains de nos amis en région, dans la région de Drummondville, et puis la tempête a frappé fort la veille. Elle nous a complètement empêchés d'aller là-bas, tout simplement parce que bon, les routes étaient praticables, mais chez lui, il n'y avait plus d'électricité. Et surtout, il y avait des arbres qui étaient tombés, qui avaient abîmé son terrain et une partie de sa maison. Et on s'est retrouvé dans une situation où on a préféré passer la soirée chez nous pour ne pas les déranger. On avait fait un plan. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que notre plan est tombé à l'eau. Il est tombé à l'eau métaphoriquement, mais aussi littéralement, à cause de cette grande tempête qui s'était abattue sur nous. Et il arrive que nous fassions parfois des plans, mais que les circonstances nous empêchent de les mettre à exécution. Dans le cas de notre ami, c'était des circonstances climatiques qui les empêchaient, mais dans le texte présent que nous ouvrons aujourd'hui, Jude fait référence à d'autres circonstances qui l'ont affecté. Parce qu'en fait, les deux versets qu'on vient de lire, ça se résume à dire « J'avais un plan et j'ai dû changer de plan ». Alors, quel était ce plan et d'où vient cette soudaine contrainte? C'est tout le but de notre sermon aujourd'hui. On va regarder ensemble les indices que ce texte nous livre. Et donc, la première chose qu'on voit dans ce texte, c'est que Jude avait un plan. Jude avait un plan. Plan. Regardez la première partie du verset 3. Il leur dit, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun. Et vous savez quoi? Dans cette toute petite phrase, eh bien, les interprètes du texte sont capables de vous dire que Jude connaissait les personnes auxquelles il écrivait. Jude écrit à des lecteurs qu'il connaît. Comment est-ce que je peux vous dire ça, moi, qui me présente devant vous aujourd'hui, en ce beau dimanche? Eh bien, je crois qu'il y a deux indices qui indiquent que Jude était en relation avec ses lecteurs et qu'il les connaissait bien. Déjà, il les appelle « bien-aimés ». Alors, je ne sais pas comment vous comprenez ce terme. « Bien-aimé » peut avoir différentes connotations dans différentes langues. Quand vous dites « bien-aimé » en français, ce n'est pas tout à fait l'équivalent de l'anglais « beloved ». Je me rappelle, un jour, je visitais Liverpool, il y a 5 ou 6 ans de cela, et alors que j'étais dans cette ville à Liverpool, il y avait un chrétien colombien, on a plusieurs Colombiens qui fréquentent notre assemblée, et ce frère a appelé le pasteur de l'église, qui était donc anglais, et il tombe sur la femme du pasteur au téléphone, et le frère colombien lui dit « Hello, beloved ». C'est exactement ce qu'un mari dit à sa femme en anglais, mais ce n'est pas ce que vous diriez à quelqu'un qui est un frère ou une sœur en Christ. Alors, bien-aimé, ça passe en français. Je peux dire une femme bien-aimée parce que le langage le permet en français, mais ça ne marche pas dans toutes les langues. Dans l'original, eh bien, ça désigne non pas l'état marital, mais plutôt les liens étroits de la famille nucléaire. Typiquement, c'est un terme d'affection, c'est comme ça qu'un enfant aurait probablement appelé son père. Et on se rend compte qu'au 1er siècle, très rapidement, cette formule agapetoi, bien-aimée, elle se retrouvait dans les correspondances chrétiennes et très probablement, on peut le supposer, dans l'Église, les gens s'appelaient bien-aimés, comme on le fait régulièrement en français. Ici, il y a une application toute nette qu'on peut en tirer très rapidement, très simplement, c'est qu'il faut comprendre l'Église comme une sorte d'extension de la famille. Je crois personnellement que l'Église est un rassemblement de famille, que ce soit dans la progression du motif du rassemblement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, vous avez l'idée que ce sont des familles de différents âges, de différentes composantes au niveau de la structure familiale qui se rassemblent ensemble et qui forment une communauté de foi. Mais cette communauté de foi, ce n'est pas un club, ce n'est pas juste une gang, pour reprendre l'expression québécoise, pardonnez mon accent forcé, c'est essentiellement une extension de la famille. Et on pourrait parler de famille d'église au sens local, que ça prendrait tout son sens. Nous sommes une famille, nous sommes appelés à être proches les uns des autres, nous sommes appelés à être en connexion les uns avec les autres, et cette connexion doit témoigner de quelque chose de plus qu'un rassemblement le dimanche matin. Et dans nos vies tumultueuses et rapides et complètement stressantes de chrétiens urbains du 21e siècle, nous devons apprendre à trouver le temps de vivre une vie d'église qui témoigne de cette réalité où l'église est l'extension de la famille, où réellement nos frères et sœurs sont des bien-aimés d'une manière concrète et pratique. Ça, c'est la première chose. Il les appelle bien-aimés, probablement il les connaît. Mais également, l'épître de Jude s'inscrit dans une correspondance en cours. Ce n'est pas une lettre qui apparaît comme ça toute seule. En réalité, il y avait ce qu'on appelle une correspondance épistolaire. Ils avaient l'habitude de s'écrire des lettres, et ce n'était probablement pas la première lettre que Jude écrivait. Alors l'argument pour défendre cette idée, il est un peu technique, il est grammatical. Vous avez une construction grammaticale entre le verbe et le cas grammatical utilisé. Et ça suggère en fait que lorsqu'il dit « comme je consacrais tous mes efforts », il fait référence à une action qui était en cours, voyez, et une action qui était déjà en cours qui impliquait qu'il était déjà en train de leur écrire à ce moment-là. Donc initialement, la lettre qui nous est parvenue, elle avait pour but de poursuivre les échanges qui avaient déjà été entamés par Jude avec ses lecteurs. Et donc le fait que Jude développe cette correspondance, le fait qu'il leur écrive de cette manière-là, qu'il s'entretienne avec eux de vérité spirituelle par le moyen de lettres, eh bien cela suggère qu'il avait un certain statut dans l'Église du 1er siècle, un statut de responsable probablement, même si le texte là-dessus ne dit pas beaucoup plus. Le point est le suivant. Jude a entamé une correspondance sur un sujet particulier avec des lecteurs qu'il connaissait. Sur quoi portait cette correspondance ? Eh bien, elle portait sur un thème qui nous est cher, à vrai dire sur le thème central de notre vie chrétienne, à savoir le salut en Jésus-Christ. Il y avait cette correspondance en cours et Jude dit qu'il la mène avec diligence, c'est-à-dire avec beaucoup d'efforts. Il dit « comme je consacrais tous mes efforts pour vous écrire », probablement il veut dire par là que la discussion elle avait déjà bien avancé. En tout cas, Jude il y avait mis toute son énergie, il était extrêmement actif dans cette correspondance. Et cette correspondance, elle avait objet pour objet le salut commun de Jude et de ses lecteurs. Alors, on n'a pas les détails de ce qui était en train de se dire à ce sujet-là, mais on voit que probablement le ton des échanges qu'il y avait entre Jude et ses lecteurs initialement, il était beaucoup plus positif que le ton de la lettre finale nous le laisse entendre. Ils avaient une sorte de correspondance, une sorte de discussion qui tournait autour de l'exhortation. Ils avaient cette chose en commun qui était le fait d'être sauvés en Jésus-Christ, d'appartenir à la même famille, être unis ensemble à cause de la même union au même Seigneur et au même Sauveur. Et Jude, à la base, il leur écrivait pour leur parler de cela. Ça voulait dire que, initialement, la correspondance était très très encourageante et que Jude était engagé dans une entreprise d'exhortation de ses lecteurs au moyen de cette lettre. Voilà quel était le plan initial de Jude, exactement comme mon bon petit dîner samedi soir qui est tombé à l'eau. C'était plutôt sympa en fait, vous voyez ? Oui, mais voilà, la deuxième partie du verset 3 nous dit que Jude a changé ses plans. Jude a changé ses plans. Et non seulement il a changé ses plans, mais en plus, il l'a fait sous la contrainte. Il dit « J'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. » Or, si vous regardez la lettre en entier, qui est très courte, l'une des plus courtes du Nouveau Testament, vous allez vous rendre compte que le ton général, il n'est pas du tout encourageant. En tout cas, il est plutôt un ton de réprimande, un ton de mise en garde. Il y a un encouragement qui est implicite, et surtout vers les derniers versets. Mais l'idée, c'est que ce style de courrier est le genre de courrier que vous n'aimez pas recevoir. Vous voyez, quand vous êtes dans une communauté de foi, que vous êtes engagé dans l'Église, la dernière chose que vous voulez en venant le dimanche matin, c'est d'entendre des gens qui vont vous faire des reproches et des remarques sur la manière dont vous conduisez votre vie d'Église. Sauf que ce ton vraiment ferme, ce ton plein de reproches sur une situation qu'il y avait dans l'Église, Jude explique que ce n'était pas son intention initiale. Pourquoi est-ce qu'il a changé de plan ? À cause de circonstances fâcheuses. Alors que je préparais ce sermon, je me suis souvenu d'une situation que j'ai vécue quand j'étais jeune chrétien. Je fréquentais une église qui se trouvait dans l'Est parisien et au moment où je travaillais avec cette église à l'évangélisation, il y avait un groupe qui se rassemblait dans la ville de Meudon, dans l'ouest de Paris. Et j'avais décidé de leur donner un coup de main une fois par semaine pour qu'on aille évangéliser cette ville qui n'avait pas d'église. Et avec trois ou quatre chrétiens, on se rassemblait une fois par semaine, puis on allait faire du porte-à-porte à l'époque. On parlait aux gens du Seigneur lorsqu'on les rencontrait, on avait des bonnes discussions. Je me rappelle qu'une dame dans la rue me voit passer et me reconnaît parce qu'elle m'avait vu, on avait déjà parlé de Dieu. Elle engage une conversation avec moi. Elle me dit où elle habite. Je la suis. Elle me dit on est plusieurs chez moi, on aimerait bien vous entendre. J'arrive sur place et je me retrouve dans un appartement où je vois un certain nombre de femmes, dans ma mémoire trois ou quatre femmes, et un homme qui était assis là. Une des femmes était enceinte apparemment de cet homme. Et dans cette maison, il y avait une atmosphère, j'aurais pas pu vous dire ce qui se passait exactement. Vous savez que je ne suis pas mystique, vous me connaissez, n'est-ce pas? Mais il y avait quelque chose dans cette salle qui n'allait pas. Je peux vous dire que j'avais un mauvais feeling, une mauvaise impression, quelque chose ne tournait pas rond. Alors ils me disent, on veut t'écouter, mais on veut aussi que tu nous écoutes. Je leur ai dit, écoutez, pas de problème, je peux vous écouter d'abord et moi je vais vous partager ce que j'ai à vous dire ensuite. On a parlé ensemble et très rapidement, je me suis rendu compte que cet homme était réellement en train de tenir toutes ces femmes sous sa coupe et il se comportait comme un véritable gourou. Il avait une position sur la personne de Christ qui était complètement erronée. En réalité, il faisait partie d'un mouvement qu'on appelle le branhamisme. Mais le branhamisme, c'est une théologie où en fait le Père, le Fils sont une seule et même personne et puis il y a tout un tas de doctrines périphériques qui se rajoute à cette position-là, qui en fait véritablement une sorte de mouvement sectaire. Et là, en l'occurrence, il avait isolé ses femmes d'une église qui n'était pas non loin, et puis s'était retrouvé chez lui avec ses femmes qui vivaient toutes sous son toit, et il avait monté son propre mouvement sectaire, en quelque sorte. Donc on retrouvait tous les ingrédients d'une secte, un enseignement erroné par rapport à la parole de Dieu, le fait d'être reclus du monde. En plus, cet homme était entouré exclusivement de femmes et il y avait probablement quelque chose qui n'allait pas. Et il y avait des jeunes filles, un petit enfant qui était là. C'était assez stupéfiant pour moi. Et au fur et à mesure que je les écoutais, je me rendais compte qu'il y avait réellement un problème dans cette maison. Et vous qui me connaissez, vous savez que je ne suis pas du genre à m'enfuir et à prendre mes jambes à mon cou. Vous savez que ce n'est pas vraiment mon style. Chers amis, j'étais terrorisé. J'avais comme les mains moites, je me sentais paralysé, je ne savais pas quoi dire, je pensais qu'au moment où je pourrais partir, sauter dans ma voiture, faire le tour de Paris avec l'autoroute à 86 et rentrer chez moi. Ce ne sont pas des sentiments que j'expérimente souvent, il y a plein de choses, plein de panels d'émotions qui me traversent, mais rarement ce style de peur. J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai demandé au Seigneur de m'aider, j'ai ouvert la bouche et j'ai commencé à leur parler. Et je leur ai dit, chers amis, je suis venu vous annoncer l'évangile, mais il me semble que mon devoir maintenant, c'est de vous dire que vous êtes en train de croire à des choses fausses. Et ce faisant, j'ai exposé pourquoi ce qu'ils venaient de me dire était complètement hors sujet, pourquoi ça ne correspondait pas au texte biblique et pourquoi ce qui se passait dans cette maison était placé sous le signe du jugement. J'ai utilisé des termes durs, j'ai parlé le plus doucement possible. J'étais jeune chrétien, j'ai certainement fait des erreurs, mais il y a une chose que je sais, c'est que ce jour-là, il fallait que je parle comme ça. Et quand j'ai pu exposer cette chose-là, j'ai été profondément soulagé. Mais le point que je veux souligner, c'est que la situation critique dans laquelle j'étais avec ces femmes qui étaient probablement sous l'emprise de cet homme m'ont amené à parler d'une manière, m'ont contraint à les avertir solennellement et à reprendre cet homme sévèrement. Et Jude est exactement dans le même cas de figure. Son intention, c'était l'exhortation, mais les circonstances le poussent à adopter une approche complètement différente. Et la circonstance était très, très similaire, parce que la cause de cette contrainte, nous dit notre texte, c'est la découverte d'hérétiques, non pas dans un appartement isolé d'une église, mais au sein même de la communauté de foi à laquelle Jude écrit. C'est comme si moi, j'étais en voyage en France et que je m'en vais pour 2 ou 3 mois. C'est un petit appel du pied pour Christian, pour qu'il me laisse partir 2 ou 3 mois, c'est pas vrai. Mais c'est comme si je partais 2 ou 3 mois en France et pendant que je suis en France, j'apprends qu'il y a quelqu'un qui vient ici, qui se met derrière la chaire, qui vous enseigne n'importe quoi et qui viendrait abuser de vous en tordant le sens des Écritures. Vous imaginez dans quel état je serais? C'est exactement ce que Jude ressent. Comme lors de mon expérience à Meudon, Jude, lui aussi, il fait une découverte fâcheuse. Vous avez des personnes qui se sont greffées à la communauté de foi et qui la mettent en danger. Et le sujet est suffisamment fâcheux à ses yeux pour qu'il choisisse d'interrompre son échange avec eux, d'interrompre ses projets et d'aborder ce sujet avec fermeté. Et je crois, chers amis, que Jude, en faisant cela, il nous donne une leçon importante pour notre foi. Il existe des menaces sérieuses qu'on ne peut pas ignorer. Des menaces qui exigent que nous réagissions avec fermeté, quitte à abandonner les projets que nous avons en cours. Il existe des sujets, chers amis, qui devraient nous faire réagir. Il existe des sujets sur lesquels nous devrions prendre position sans hésiter un seul instant. Il y en a et cela existe. Or, nous, croyants évangéliques, quand nous nous retrouvons face à une doctrine que nous jugeons fâcheuse, nous pouvons réagir de 2 manières qui sont complètement différentes de celles de Jude. Première manière, c'est de faire ce qu'on appelle l'autruche. Je ne sais pas si vous avez cette expression-là en québécois. Faire l'autruche, c'est faire comme les autruches, enterrer sa tête dans le sable. Personne m'a vu, je n'ai rien vu, circuler, il n'y a rien à voir. C'est malheureusement l'attitude la plus courante chez les chrétiens dans le monde évangélique. C'est l'attitude qui dit « c'est pas mon problème, ça ne me concerne pas, ça ne me touche pas ». On peut comprendre franchement cette réaction. Certains chrétiens sont tellement négatifs qu'on n'a juste pas envie de se mêler de leurs problèmes. Et puis d'ailleurs, on a tellement de problèmes nous-mêmes. On a tellement de péchés qu'on n'oserait même pas exposer en public, tellement on a honte du fond de notre cœur. Pourquoi on irait se battre contre littéralement des moulins? Pourquoi j'irais me lancer dans une bataille de ce type alors que j'ai déjà bien des choses à m'occuper dans ma propre vie? Ça, c'est vrai, c'est un bon raisonnement. Mais vous avez l'attitude opposée. Et puisqu'on parle de faire l'autruche, j'ai choisi d'appeler l'attitude opposée « faire le ratel ». Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un ratel, je m'intéresse beaucoup aux animaux en Afrique. Le ratel, c'est un blaireau à miel. Oui, ça ne s'invente pas. Et le ratel, c'est l'un des animaux, les plus agressifs au monde. C'est un petit blaireau qui chasse des petits rongeurs ou des choses comme ça, ou qui vient manger des charognes, qui mange aussi du miel apparemment. Et c'est l'un des animaux les plus agressifs au monde. Il n'hésite pas, tout petit qu'il est, à aller se battre avec des lions ou avec des buffles pour défendre sa proie ou quand il a vraiment faim pour manger. C'est le genre d'animal qui va vous attaquer pour rien, exactement comme le bouc dans Daniel qui donnait des coups au nord, à l'est ou à l'ouest, bref, tout azimut. Eh bien, c'est ce même style d'animal. Et figurez-vous que certains croyants, spirituellement, sont véritablement des ratels. Dès qu'ils voient un truc qui ne leur plaît pas, ils mordent. Vous voyez le genre? Ils sont spécialistes de ce type d'approche au point que leur vie tout entière n'est qu'un grand combat contre toutes les pensées ou contre toutes les personnes qui pensent différemment de ce qu'ils jugent être l'orthodoxie, n'est-ce pas? On parle parfois de ministère de discernement, mais chez certains, ce discernement est tellement aigu qu'ils en viennent à frapper tous azimuts, exactement comme un ratel, exactement comme ce bouc dans Daniel. Or, ce n'est pas ce que fait Jude, pas du tout. Et j'aimerais vous le dire d'emblée, d'office, ces deux attitudes sont extrêmement préjudiciables. Et il faut le dire, il faut qu'on se remette en question, nous, notre mouvement. Nous autres réformés baptistes, nous sommes souvent animés d'un sentiment de suffisance. On est parvenu à un niveau de connaissance tellement fort que tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont nuls. Touche pas une bille, comme on dit en français. Ils valent pas la peine d'être écoutés. Ils ont rien compris à la saine doctrine. On n'a strictement rien à voir avec eux. Il faut dénoncer tous ces groupes de maudits. C'était un peu ce que disaient les pharisiens de l'époque de Jésus. Vous ne connaissez pas la loi, vous êtes des maudits. Jésus vient les enseigner, Dieu lui-même leur parle, il lui dit « T'as même pas 50 ans, tu viens nous enseigner », lui disent-ils. Regardez cette suffisance, regardez cet orgueil spirituel qui les animait. Eh bien, malheureusement, bien souvent, parce qu'on maîtrise tellement bien la parole de Dieu, on en oublie ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Nous nous mettons à juger tout le monde. Et on se met à se monter des combats qui sont secondaires et qui n'auraient pas lieu d'être. Et parfois, on filtre le moucheron, chers amis, exactement comme les pharisiens, et on gobe le chameau jusqu'à la queue. Et croyez-moi, en disant cela, je vois tout un tas d'attitudes dans ma vie qui reflètent ce style de suffisance qui est celle qui anime les gens qui pensent avoir tout compris. Alors, il y a certaines de nos prises de position fracassantes qui sont scandaleuses, chers amis, il faut qu'on le dise. Mais il y a aussi, malheureusement, y compris dans nos milieux, des silences qui sont coupables. Le péché nous pousse à nous taire quand on devrait parler et nous pousse à ouvrir notre bouche, à hurler même, quand il faudrait mieux se taire. Or, chers amis, Jude n'est pas en train de réagir pour une petite raison ici. Il n'est pas en train de se battre pour une querelle de queue de cerise. Il n'est pas intéressé par la couleur de la moquette dans l'église. Il n'est même pas intéressé par des questions de forme du culte. Il n'est pas animé d'un esprit de contradiction. Il avait entamé une démarche d'exhortation. Il n'est pas animé d'un zèle amer. Il est simplement inquiet et il a des bonnes raisons d'être inquiet parce que la menace est sérieuse. La menace est sérieuse et il veut que les chrétiens auxquels il écrit la prennent en compte. Comment est-ce que je peux vous dire que la menace est sérieuse? Tout simplement à cause des critères, cette liste de critères qui caractérisent ces hérétiques, ces véritables faux docteurs qui s'étaient intégrés à l'église à laquelle Jude écrit. Et cette liste de critères, vous allez le voir, on va les passer en revue ensemble, vous montre que la chose était très sérieuse. Alors qui sont ces personnes dont parle Jude dans sa lettre? Il donne aucune indication sur leur identité. Vous vous souvenez qu'il écrivait une lettre à des personnes qu'il connaissait et il n'est pas très bavard quant à leur identité à eux non plus, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Il se limite simplement à écrire que ces hommes, ces hérétiques qui menacent la communauté, ce sont des hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, verset 4, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Chers amis, Jude n'est pas un franc-tireur, ce n'est pas un allumé de la gâchette, il ne souhaite pas déclencher des polémiques pour rien, mais il est affolé par la découverte de ces personnes dans l'Église et il l'amène à réagir de cette manière très ferme, justement à cause de qui ils sont. Regardez ce que dit le texte. Première chose que le texte nous dit au sujet de ces personnes, c'est que leur foi, ou en tout cas ce qu'ils appellent la foi, n'est pas la foi transmise au sein une fois pour toutes. Leur foi est différente. Et c'est là le point central de toute l'inquiétude de Jude. Les lecteurs qui sont les destinataires de Jude, les lecteurs qui lisent cette lettre, eh bien, ils sont dépositaires de cette foi, mais certainement pas ceux qu'ils déclarent hérétiques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par foi transmise au sein une fois pour toutes ? Ce n'est pas une référence à la foi dans le sens de la confiance que vous placez en Dieu, mais cette notion de transmission implique l'idée d'une tradition. C'est exactement le même mot, c'est un dérivé du mot. En réalité, ce n'est pas vraiment une référence à la foi individuelle des croyants, mais plutôt sur ce à quoi la foi adhère, ce vers quoi elle se focalise, ce qu'on appelle la tradition reçue, le cœur du message chrétien, les articles de foi, le contenu doctrinal. On parle, et on l'a dit la semaine dernière, de tradition apostolique. Alors, je sais que le mot tradition est parfois vu très négativement à cause des développements de l'histoire de l'Église et certaines traditions se sont écartées. Nous pensons que Dieu a quand même gardé la tradition et sa transmission d'une certaine manière. Mais là, ici, on parle de cette tradition inspirée, de ce message donné par Dieu aux apôtres pour que les apôtres la communiquent aux croyants. Donc, la même tradition qui vous est donnée dans les Écritures. C'est cela dont Jude est en train de parler. Et c'est ça sa principale raison pour être aussi ferme. C'est que ces hérétiques, ils s'opposent à cette tradition apostolique, ils font mine d'y croire, mais ils n'y adhèrent pas. Et en rejetant ça, en la niant, eh bien, ils rejettent certains enseignements fondamentaux des Écritures. On n'est pas en train ici de parler d'enseignements secondaires. On n'est pas en train de parler de divergences même sur des sujets qui pourraient être des sujets d'ecclésiologie. On peut être en désaccord sur l'ecclésiologie, on ne fera pas d'église ensemble. C'est possible qu'on ait un désaccord ferme et fort là-dessus. Ça arrive. Là, on parle de points centraux, de points fondamentaux, de points qui touchent à la doctrine du salut, à la doctrine de Dieu, à la doctrine de Christ. Et c'est exactement ce qui fait que Jude est affolé. Il croit un évangile différent du vôtre. Voilà ce qu'il est en train de leur dire. Deuxième chose qui l'angoisse, c'est que ces hérétiques se sont littéralement glissés dans la communauté, pour reprendre le langage de la NBS. Autrement dit, leur approche, elle n'est pas franche. Elle n'est pas directe. Elle n'est pas ouverte. Elle est insidieuse, elle est malveillante. Ils usent de dissimulation. Ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et si je pouvais paraphraser ce que Jude dit, ça serait quelque chose comme « ils vous font croire qu'ils sont des vôtres, mais ils n'en font pas partie ». Et très probablement, leur arrivée au sein de la communauté, elle a été imperceptible. D'où la surprise de Jude. Et je crois, chers amis, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, si vous avez Facebook par exemple, et que vous êtes dans le monde francophone, que votre première langue est le français, peut-être vous avez déjà vu passer ce qu'on appelle la secte du Dieu Tout-Puissant. Ils se présentent eux-mêmes comme l'église du Dieu Tout-Puissant. Ils se présentent eux-mêmes comme une église particulière qui vient vous parler sur Facebook. En réalité, c'est une église chinoise qui a un leader basé aux États-Unis, une femme, qui est une église qui a un succès incroyable en Chine, mais dont la méthode, c'est d'infiltrer les églises évangéliques, souvent les églises d'arrière-plan protestantes, mais souvent plus les églises évangéliques et pentecôtistes. Et donc, en rentrant dans ces églises-là, via les réseaux sociaux, ils prennent contact avec les chrétiens, et c'est leur méthode pour sortir les gens de ces églises et implanter leur propre communauté. C'est typique d'une approche qui est complètement, j'allais dire, fausse, basée sur de la malveillance, basée sur le fait de... C'est une démarche insidieuse, c'est exactement ce que Jude entend lorsqu'il dit « ils se sont glissés dans la communauté ». Donc leur message est faux, leur méthode est douteuse, d'emblée il y a quelque chose qui ne va pas avec ces gens-là, et Jude est affolé. Et regardez, il va plus loin, il les qualifie d'impies. Alors le mot « impie », c'est un mot vieilli, peut-être qu'il a perdu de son sens pour vous. Il revient d'ailleurs, ce terme et ses dérivés, à plusieurs reprises et sous différentes formes dans la lettre de Jude. C'est même l'un des thèmes clés de la lettre. En d'autres termes, ce que Jude est en train de dire, c'est qu'ils font profession de suivre Jésus-Christ. Ils ont toutes les apparences du croyant authentique, mais si vous voulez les reconnaître et savoir qui ils sont, regardez comment ils vivent. Ils ont un message qui sonne bien, ça sonne chrétien, ça a le goût du chrétien, ça a l'odeur du chrétien, ça a, comme on dit, le patois de Canaan. Et quand tu vois leur mode de vie, c'est complètement délirant par rapport à ce que le message dit. Leur conduite publique ne correspond pas à ce qu'on attend d'un chrétien. Ils glorifient Dieu des lèvres, mais leurs actions disent la vérité sur leur condition spirituelle. Et ce que Jude leur dit en les traitant d'impies, il leur dit « mais ouvrez vos yeux, regardez vous-même, si ce que je vous dis est faux, vous le constaterez. Mais soyez plein de discernement par rapport à leur attitude. » Il explicite même un peu plus loin, regardez ce qu'il dit, il dit « ils changent la grâce de Dieu, dans vos versions peut-être en dérèglement, mais le terme original c'est bien de la débauche. » Ici le mot débauche, il a un sens très précis, c'est pas juste un terme général ou générique, il se réfère clairement aux excès sexuels. Et ici, vous avez le cœur du problème de Jude. Il dit que les hérétiques, ceux qui se sont infiltrés dans la communauté, ils invoquent la grâce de Dieu pour justifier leur conduite sexuelle déviante. Au lieu de considérer la grâce comme une puissance qui sauve et qui transforme les croyants, eh bien les hérétiques ils prennent la grâce comme une permission de faire ce qu'on veut. Or, chers amis, il faut le dire, c'était l'un des grands problèmes de l'Église primitive et c'est l'un des grands problèmes de l'Église du XXIe siècle que de considérer la grâce comme quelque chose qui s'oppose au commandement de Dieu et qui nous permet de faire ce qu'on veut. C'est la fête, c'est la joie, on s'éclate. Merci Seigneur de nous avoir libérés. Voilà ce que dit ce style de christianisme. C'est ce qu'on appelle de l'antinomisme, littéralement l'anti-loi. Ça s'oppose au commandement de Dieu. Les deux principaux challenges de l'Église primitive étaient ceux-là. Prendre les commandements de Dieu comme un moyen de salut. Ça, c'était les Galates. C'est du légalisme. Paul est extrêmement ferme sur ce type d'erreur. L'autre erreur était de prendre la grâce de Dieu comme une permission de faire ce que l'on voulait, notamment en matière de péché sexuel. C'était un gros problème à Corinthe. Vous vous souvenez, à Corinthe, ils avaient même un slogan. « Tout m'est permis », disait-il, « tout m'est permis ». Et Paul leur répond, ouais, « Attends, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Puis il disait, « Les aliments sont pour le ventre, hein, donc le corps, il est pour, hein, suivez la logique, pour la débauche. » Et Paul leur dit, « Non, les aliments sont pour le ventre, ok, mais le corps n'est pas pour la débauche. Arrêtez les faux syllogismes. » Et il les reprend. Mais ici, dans le cas de Jude, il semble qu'ils n'en étaient pas restés à de simples slogans et à des pratiques douteuses. Ils étaient plutôt en train de justifier ça par l'emploi de l'évangile même. J'ai aucun doute que plusieurs d'entre nous, ici, aujourd'hui, luttent d'une manière ou d'une autre avec leur sexualité. Je l'ai déjà dit et je le répète, je fais partie de ces théologiens qui pensent que toutes les personnes nées de nouveau galèrent dans un sens ou dans un autre avec leur sexualité parce que la sexualité dans son ensemble du genre humain est affectée par la chute comme nos capacités de volonté, comme tout le reste. Alors peut-être que vous n'avez pas un péché particulier qui vous mine dans ce domaine dans votre vie, mais votre sexualité aussi est affectée par la chute. Il y a une chose que je sais. C'est que parmi toutes les personnes de cette église à qui j'ai pu parler, je n'ai trouvé personne qui luttait avec tel ou tel péché particulier, sexuel ou non, qui est venu m'expliquer que c'était normal à cause de la grâce. Ce serait un non-sens si l'un d'entre vous me disait « Je lutte avec ça, mais c'est juste parce que j'ai la grâce de le faire. » Mais tu n'es pas en train de lutter, tu es en train de dire que tu as le droit de le faire. Or, ce que disaient les personnes qui fréquentaient l'église à laquelle je l'écris, c'est je peux le faire, j'ai le droit de le faire, c'est permis de le faire, et peut-être même ce qu'il disait, c'est encouragé de le faire à cause de la grâce. La grâce me délivre, la grâce me libère même des commandements de Dieu. Grâce à cette grâce, je peux enfin vivre la vie dont j'ai toujours rêvé et me laisser aller à tous mes penchants. N'importe quoi. Voilà quel était le problème. Le drame, c'est d'utiliser la grâce pour justifier des comportements déviants. Mon ami, si tu es au bénéfice de la grâce de Dieu, cette grâce ne peut pas te laisser en repos si tu entretiens un péché dans ta vie. Et c'est une bonne chose que cette culpabilité, si elle te travaille, et quelle que soit ton addiction, quel que soit ton problème avec lequel tu luttes, quelle qu'en soit la nature, il est bon que le Seigneur ne te laisse pas en paix avec ça. Et ça, mon ami, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Parce que Dieu t'aime beaucoup trop pour te laisser ainsi. Et la puissance qui agit en toi par l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter dans une vie qui se livre à ce genre de choses sans forcément créer une opposition dans ta chair. Et c'est exactement, je crois, ce que Paul dit lorsqu'il dit en Romains 7 « J'ai la volonté de faire le bien, mais je n'y parviens pas. » Et il en déprime, il crie presque à Dieu de le reprendre, il dit « Mais qui va me délivrer de ce corps de mort ?» Et la solution, vous la connaissez. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà la nature de la grâce même. Elle nous sauve, elle nous libère, mais elle ne nous libère pas des commandements de Dieu, elle nous libère du péché, elle nous rend capables d'obéir, elle nous façonne. Et l'une des choses par lesquelles elle nous façonne, c'est par cette conviction de péché sans cesse renouvelée qui revient dans votre vie chaque fois que vous vous laissez aller à transgresser les commandements de Dieu. Ça, c'est la grâce biblique. Certainement pas celle qui te dit que tu peux faire ce que tu as envie de faire. Vous savez, l'antinomisme, il prend différentes formes dans l'histoire. Je crois qu'aujourd'hui, l'un des plus grands drames qui caractérise l'Église par rapport à cette notion d'antinomisme, cette fausse idée de la grâce, elle consiste en deux expressions mal comprises. La première, c'est « il n'y a que Dieu qui peut me juger ». Vous la connaissez celle-là ? « Il n'y a que Dieu qui peut me juger ». Oui, c'est vrai, il n'y a que Dieu qui peut te juger. D'ailleurs, il va le faire. Il va le faire. Il jugera les impies et les méchants. Je viens d'écrire un article pour un ouvrage collectif en France. On me demande de répondre à cette deuxième phrase qui, à mon avis, est un problème, vous voyez, qui est mal compris, qui est vrai, qui n'est pas absolument vrai. C'est que Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est vrai. Mais, à vrai dire, il n'aime pas non plus le pécheur. Il n'y a pas ce divorce entre le péché et la personne qui commet le péché. Il aime le pécheur en dépit de son péché à cause du sacrifice de Christ. En dehors du sacrifice de Christ, il a de la haine pour le pécheur. Il va juger le pécheur. Ce n'est pas des péchés qui sont mis en enfer, c'est des pécheurs. Le jugement de Dieu ne tombe pas sur un concept abstrait. Il tombe sur des personnes qui ont commis ces fautes et ces péchés-là. Et la grâce de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait la grâce de Dieu dans ta vie ? Eh bien tout simplement, elle te délivre de la condamnation, elle t'accorde le pardon divin, elle commence une œuvre en toi, une œuvre qui fait que tu ne peux plus vivre ta vie comme elle était avant. Ce n'est pas t'es débridé pour pouvoir enfin vivre le plaisir du monde pleinement. C'est tu te transformes à l'image de Christ et ta loi devient sa loi devient ton plaisir. Sa grâce te pousse à obéir au commandement de Dieu. Et voici pourquoi c'est dramatique. Regardez ce que Jude dit à propos de ces faux docteurs. Il dit, il renie Jésus-Christ. C'est fort. C'est fort. Il renie Jésus-Christ, notre seul maître et seigneur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte combien la charge est lourde. S'ils font profession d'être des chrétiens, leur attitude en réalité prouve qu'ils renient le Christ. Notez d'ailleurs l'insistance de Jude sur la suprématie de Christ et sur son autorité. Il appelle Jésus-Christ non pas Seigneur et Sauveur, il l'appelle Maître et Seigneur. C'est comme si vous mettiez les deux faces d'une même pièce. Hein. Il est Seigneur, il a aussi toute autorité sur ta vie. Apparemment, les hérétiques, ils voulaient bien d'un Sauveur, ils voulaient bien d'une grâce, en tout cas leur vision de la grâce, mais ils ne voulaient certainement pas d'un Maître, encore moins d'un Seigneur leur fixant un cadre moral. Si vous reniez la suprématie de Christ, chers amis, si vous choisissez ses promesses et rejetez ses commandements, ce n'est pas juste un aspect du message que vous rejetez. Vous rejetez la personne de Christ tout entière. Si vous le laissez prendre autorité sur votre vie, s'il devient votre sauveur, il est aussi de facto votre Seigneur. Il est de facto votre maître. Vous choisissez d'être en alliance avec lui. Et lui, et seulement lui, par sa grâce et par son pardon, vous libère du péché. Il ne vous libère pas de ses prescriptions. Plus que jamais, vous êtes appelés à lui obéir. Et par conséquent, puisqu'il renie notre seul maître et sauveur Jésus-Christ, maître et seigneur Jésus-Christ, regardez ce que dit Jude, il dit « Leur jugement est écrit depuis longtemps. » Jude ne se fait aucune illusion sur l'avenir éternel de ses faux croyants. Chers amis, c'est triste à dire, mais dans l'état où j'ai vu cet homme à Meudon, je ne me faisais aucune illusion sur son statut éternel devant Dieu. Alors, je crois que Dieu peut changer les choses. On a vu récemment, il y a des choses qui peuvent bouger dans une vie. Des gens qui tenaient des positions dramatiques, hérétiques, qui s'opposaient à Dieu à main levée, qui étaient à 100 à l'heure, à contresens par rapport à la volonté de Dieu. Ils sont transformés, et ça aussi, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, n'est-ce pas ? Mais Jude ne se fait aucune illusion quant à lui sur l'avenir de ses faux croyants. Ce qu'il dit, c'est que les gens de ce type, leur condamnation est assurée. Pire, le terme qu'il utilise, c'est « leur condamnation est décrétée depuis longtemps ». Une référence au décret éternel, donc bien avant que Jude lui-même ait écrit cette lettre. Et si vous en voulez la preuve, regardez ce qu'il fait au verset 11. Il va les comparer à qui ? À Caïn, à Balaam et à Corée. des personnages de l'Ancien Testament, vous ne pouvez pas faire plus opposé à Dieu que cela. Cain, le meurtrier, on l'a étudié ensemble dans l'école du dimanche. Balaam, qui est un prophète de Dieu, qui reçoit des oracles de Dieu et qui se sert des oracles de Dieu pour nuire au peuple de Dieu. Corée, connaissez l'histoire de Corée, qui s'est opposé avec Dathan et Abiram au culte de l'Éternel et que la terre a avalé. Ils sont connus pour leurs oppositions à Dieu. Ils ne font que suivre ces hérétiques de Jude, les mêmes égarements, les mêmes sentiers de perdition. Ils font partie du même groupe de faux croyants que ceux des temps anciens. Rien de nouveau, dit Jude. Ces gens qui font profession d'être au milieu du peuple, au milieu de vous, c'est exactement les mêmes que ceux qui étaient déjà dépeints dans l'Ancien Testament. Et je vous le redis et le répète, probablement les lecteurs de Jude, ils n'avaient rien d'autre que l'Ancien Testament comme cadre de référence. Pour eux, ces exemples-là, c'était comme si je vous avais dit, ces gens-là sont comme Judas Iscariot qui a livré Jésus. Ça leur parlait de la même manière. Les lecteurs de Jude savaient bien que la condamnation de tels hommes était actée et déjà décrétée. Alors en regardant les choses sous cet angle, on comprend toute l'angoisse, tout l'empressement et toute la fermeté de Jude. Il savait que de tels hommes étaient une menace pour l'Église, qu'ils pouvaient la réduire à néant. Et c'est triste à dire, mais cette situation n'était pas isolée au 1er siècle. Il devait avoir même des exemples d'Églises qui avaient été complètement retournées par l'arrivée de fausses doctrines. Regardez ce que dit Paul dans Actes 20 aux anciens d'Éphèse. Il les réunit sur la plage, il pleure. Il pleure parce qu'il sait qu'il ne va pas revoir leur visage, mais il pleure aussi et il leur dit pourquoi. Je sais qu'après mon départ, il va s'introduire parmi vous des loups ravisseurs et ils n'épargneront pas le troupeau. Il l'a vu de ses yeux, aussi clair qu'Élisée avait vu comment Hazaël allait mettre à mort les femmes enceintes et les Israélites au moment de l'invasion des Syriens au 9e siècle avant Jésus-Christ. Il l'a vu de ses yeux. Il a vu la mort de l'église qu'il avait implantée. Vous imaginez ce que ça veut dire pour un berger ? Il a vu cette église péricliter. Il a vu d'avance les luttes doctrinales qu'il allait avoir, comme quand il a écrit la deuxième lettre à Timothée. Il savait que ça allait donner cela. Mais le fait est que ces situations étaient tellement courantes au 1er siècle que Jude avait toutes les raisons d'en être alarmé. Et chers amis, de telles situations existent encore de nos jours. Elle est le fruit de fausses doctrines. Elle est le fruit d'un excès de tolérance. De notre part, elle est aussi le fruit que souvent on se trompe de combat. Oui, il y a des moments et des instants où il faut prendre position, mais nous l'avons probablement fait bien mal fait et à bien des reprises et à bien des égards. Je crois que pour nous, ce texte constitue un triple appel et nous appelle à trois choses. Première chose, c'est un appel au discernement. Ce que dit Jude, en quelque sorte, ce qu'il nous adresse à travers les âges, c'est que il nous faut reconnaître que de tels hérétiques peuvent se trouver dans nos communautés. Alors, calmez-vous, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut qu'on lance une chasse aux sorcières et qu'on aille discerner les hérétiques qui sont dans notre église, ce n'est pas du tout le but. En fait, ce que dit Jude à travers ce texte, c'est qu'il ne faut pas ignorer que de telles situations peuvent arriver dans n'importe quelle église, qu'elle soit réformée baptiste ou non. Et ce qu'il nous dit, c'est « ne mettez pas les mains sur les yeux ». Ne faites pas l'autruche quand elles arrivent. Ne faites pas comme si elles n'existent pas. Ne dites pas « ça ne me concerne pas ». Vous êtes concernés parce que si ça naît dans votre église, alors forcément l'avenir de votre église est en jeu. Et si vous n'avez jamais assisté à une église qui ferme, croyez-moi, moi je l'ai vécu une fois, si vous voulez vivre une grande période de déprime et de dépression, eh bien vivez cela, vous allez voir ce que ça veut dire dans la vie d'un croyant engagé dans l'église quand vous voyez qu'à cause de fausses doctrines, la santé d'une église se retrouve menacée et que finalement la meilleure solution c'est que cette église, elle se fasse absorber par une autre pour ne pas continuer dans ses mauvais travers. Et plusieurs d'entre nous ici, je le sais, sont passés par différents mouvements avant d'arriver jusqu'ici et vous avez compris le mal que ça pouvait faire lorsqu'une fausse doctrine vous était prêchée et venait à diriger l'ensemble de votre vie, n'est-ce pas ? Vous savez pour certains d'entre vous ce que ça signifie. Et vous êtes concerné si cette situation émerge dans votre église, son avenir est en jeu. Ce n'est pas un appel pour autant à agir comme un franc-tireur. C'est justement le deuxième appel de ce texte. Un appel à la sagesse. Première chose, toutes les situations ne se valent pas. des hérétiques qui changent la grâce de Dieu en dérèglement, ça n'a rien à voir avec des personnes, je sais pas moi, qui n'ont pas le même point de vue que vous sur la musique dans l'église ou sur le principe régulateur. Vous savez qu'on a une vision ici du principe régulateur. On pense que le culte, il doit être mené d'une certaine manière, d'accord ? Et on pense que cette manière, elle nous est donnée par les Écritures elles-mêmes. On pense que la Bible nous donne des indications claires sur la manière dont le culte doit être vécu. D'autres personnes pensent différemment. Ok, on n'est pas d'accord. Ok, on ne fera probablement pas d'église ensemble. Mais ce ne sont pas des hérétiques au même titre que ceux qui niaient la grâce de Dieu dans Jude. Il faut faire preuve de sagesse ici. Il y a une hiérarchie des problèmes. Et l'une des choses que nous allons faire en étudiant cette lettre, c'est que nous allons apprendre à tirer une telle hiérarchie des problèmes, à voir ce qui est réellement très important, central, où l'évangile en entier est en jeu, à voir ce qui est important pour notre Église, parce que nous avons des convictions fortes et fermes sur le sujet. Mais il y a aussi des sujets qui sont réellement secondaires. Cela existe. De même, prenez garde, chers amis, à ne pas devenir des francs-tireurs de l'Église, à ne pas être celui qui râle à tort ou à travers et qui emmène les gens dans leur insatisfaction. Paul met en garde à ce sujet-là. Les hommes qui créent les divisions. Ce qui me frappe, c'est l'adjectif qui caractérise de tels hommes, dans Romains notamment. Ce sont des hommes sensuel, littéralement privé de l'esprit. Prenons garde à ne pas devenir ce type de franc-tireur. L'évangile est une doctrine de paix, certainement pas une doctrine d'amertume. Donc discernement et sagesse vont main dans la main, surtout quand on en arrive à des problèmes comme celui-là. Et enfin, un troisième appel, c'est un appel à l'action. Ce que Jude dit, c'est qu'il nous faut combattre des situations de ce type, qu'il ne faut pas les laisser passer sans prendre position. À vrai dire, l'appel de Jude à ses lecteurs, il est très pratique. Il ne veut pas juste simplement les affoler, il ne veut pas juste simplement leur balancer un message pour qu'eux aussi s'excitent et se mettent à faire une chasse aux sorcières dans leur église. Non, ce qu'il veut, c'est que l'évangile dans l'église soit prêché d'une manière et la discipline d'église soit exercée d'une manière qui fasse en sorte que l'ivraie et le bon grain soient séparés, qui fasse en sorte que la parole de Dieu puisse dévoiler les cœurs, qui fasse en sorte que quelqu'un qui se dit chrétien mais qui ne l'est pas, ne puisse pas subsister en ayant un discours qui manifestement n'est pas en accord avec la réalité de l'évangile. Il les appelle à prendre des mesures, à agir avec diligence comme il le fait, et il donne, nous le verrons dans les semaines qui viennent, des conseils éminemment pratiques pour ce faire. Un appel au discernement donc, un appel à la sagesse, mais un appel à l'action. Ce n'est pas une petite chose que celle pour laquelle Jude écrit. Ce n'est pas le genre de prédication qu'on a envie forcément d'entendre ou d'écouter. Ce n'est pas le genre de lettre qu'on aurait forcément envie de recevoir. On aimerait tous qu'on nous caresse un peu le dos et qu'on nous dise « C'est bien, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. » Mais il y aura dans cette vie des situations où nous savons que Dieu va nous tester et va nous appeler à prendre position. Et c'est ce que les lecteurs de Jude ont expérimenté. Est-ce que nous pourrons apprendre ensemble, durant les semaines qui viennent, de ce qui s'est passé au premier siècle et de ce que cela peut signifier pour nous qui sommes arrivés à la fin des siècles ? Que le Seigneur nous dirige alors que nous regardons comment la parole de Dieu peut nous donner instruction dans ce domaine. Prions. Seigneur, merci pour cet exemple de Jude qui a changé ses plans pour une situation grave. Ce qui nous rappelle que les situations graves existent, y compris dans l'Église. Seigneur, nous savons que nous vivons dans un monde qui nous est hostile, mais qui peut nous donner tellement d'attraits trompeurs qu'on peut se laisser endormir par celui-ci et finir par considérer que finalement, les choses vont aller bien par elles-mêmes. Seigneur, merci de nous rappeler que des situations comme celle-ci peuvent affecter les églises, peuvent affecter notre communauté de foi, peuvent nous affecter directement. Et en même temps, Seigneur, tu nous places face à nos limites, en nous montrant qu'on peut soit ignorer les problèmes, soit les exagérer au point de devenir nous-mêmes des personnes à problème. Seigneur, je veux juste te prier pour que tu nous délivres de toute amertume, de tout excès de zèle, que tu nous remplisses de sagesse en tant que communauté, que tu nous accordes ta grâce en tant que peuple de Dieu, que tu nous aides à faire preuve de sagesse, que tu nous aides à discerner quand notre Église va bien, que tu nous aides à voir les dangers potentiels, que tu nous aides à travailler les uns avec les autres et non pas les uns contre les autres, que nous puissions vivre ensemble cette vie d'Église, et marcher ensemble d'un même pas, en prenant garde de ne pas mettre les pieds dans les ornières, Seigneur. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour que, si de telles situations arrivent dans notre Église, nous puissions agir avec sagesse, nous puissions réagir de la bonne manière, nous puissions faire front en tant que corps de Christ, sans division, dans l'unité, pour manifester ton ordre, ton évangile, Seigneur, et la manière dont tu nous as sauvés, qui est bien plus qu'une simple délivrance, Seigneur. Tu nous changes, tu nous crées à nouveau, tu nous transformes, tu fais de nous des nouvelles créatures. Seigneur, aide-nous à vivre cette vie de nouvelles créatures, aide-nous à manifester ta grâce là où tu nous as placés. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié et que ton règne vienne. Amen.